Bonsoir et bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, la seule source de frissons sur le FM de Québec. Qu'est-ce qu'on fait à Fréquence d'Outre-Tombe, Pat? Qu'est-ce qu'on explore?
On explore l'inexploré, je pense, hein? On explique-tu l'inexpliqué?
On explique l'inexpliqué et c'est... on flirte avec...
Hey, ça, je m'en rappelle pas. C'est avec quoi, donc?
Avec le paranormal.
Ah oui! Bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe!
Comme d'habitude, 30 minutes d'histoires effrayantes, David Rocketship et Patrick Anctil pour servir vos oreilles.
Ce soir, on a une émission spéciale. On a une émission Fréquence d'Outre-Tombe spéciale tribune. Donc, en lien avec notre concours du mois des morts, notre concours de crâne, de tête de mort, on avait demandé au public de nous envoyer des histoires à faire dresser les cheveux sur la tête. Et nous avons choisi certaines histoires parmi les 2 millions qu'on a reçus, David.
Oui, exact. On a reçu, on en a choisi trois. On en a sélectionné trois. On n'était pas capable de les départager. Donc, vous allez nous aider.
Oui.
Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va lire ces trois histoires en ondes. Et par la suite, dans le courant de la semaine, on va les partager sur la page Facebook. Puis on va vous faire voter pour votre histoire préférée.
Oui, et donc on va lire les histoires un peu à la sauce habituelle avec des effets, des bruitages et soyez indulgents, on va essayer le plus possible de rendre justice à vos belles œuvres littéraires avec nos voix d'outre-tombe.
Et Pat, oh, pendant qu'on se parle, j'ai le téléphone qui sonne, je prends ça à l'instant, on a un auditeur qui nous appelle, donc donne-moi une seconde, je transfère l'appel.
Oh yeah!
Oui, bonjour, bienvenue à Fréquence d'Outre-Tombe, à qui est-ce qu'on parle?
Salut, c'est Marlène. Comment ça va?
Ça va très bien, toi. Merci d'écouter. Content de savoir que tu es à l'écoute.
Ben certain. Tu sais, les trucs paranormaux, ça a un petit côté crunchy qu'on aime bien. Hein?
Oui, absolument. Ben d'accord. Oui. Donc, Marlène, si tu nous appelles, j'imagine que tu as un petit quelque chose à nous raconter.
Ben oui, écoute, c'est une histoire d'ailleurs que tu as déjà entendue. Mais que je vais partager avec ton auditoire.
Parfait.
Ça s'est passé il y a bien des années, disons à la fin des années 90. C'est un des premiers logements que j'ai loué. Et puis je voulais habiter dans le quartier Saint-Jean-Baptiste parce que c'était le quartier qui était hot. Et puis donc j'ai aménagé dans un petit 2,5 dans une vieille maison du quartier Saint-Jean-Baptiste sur la rue Richelieu. Encore aujourd'hui, des fois, je passe devant puis je me rappelle ces choses-là. Et puis, c'est le genre de maison où le sous-sol slash rez-de-chaussée, parce que c'est en pente hein, dans le quartier. Donc, d'un côté, c'est du côté de la rue, il y a des mini-fenêtres, c'est comme si c'était un sous-sol. Puis du côté de la cour, ben c'est comme si t'étais directement au rez-de-chaussée. Donc, c'était tout en pierre. C'était de la pierre calcaire. C'était super beau. C'était un peu froid. Puis, il y avait... c'était probablement les anciennes cuisines de cette maison-là. Parce qu'il y avait une espèce de foyer, un âtre là, qui était condamné, mais qui était encore là, en pierre. Puis on voyait que bon, le trou de la cheminée avait été bouché, mais c'est probablement là que les gens cuisinaient là, quelques centaines d'années, j'imagine. Je suis pas mal certaine que c'est une maison qui doit avoir plus que 200 ans. Toujours est-il que je vais arriver au bout de paranormal. Là. Je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas, on a fait beaucoup de théories là-dessus. On n'a jamais réussi à savoir exactement qu'est-ce qui se passait là-dedans. Il y en a qui disent c'est les lutins, parce qu'il y a des gens qui croient aux lutins. D'ailleurs, paraît qu'il y en a beaucoup à Limoilou.
Ah, des lutins, c'est vrai?
Il y en a peut-être dans les locaux de CKRL. Si jamais vous avez des affaires inexpliquées, c'est peut-être des
les lutins de Limoilou qui viennent nous jouer les tours.
tout se peut. Il y en a qui disaient que c'était peut-être des esprits qui étaient rattachés à la maison. Là. Il y en a qui faisaient des théories que c'était les gens qui cuisinaient, puis en tout cas, là, on partait sur des chires, puis il y en a d'autres qui disaient que c'était mon chat, mais je trouve que c'était une bien grande responsabilité pour mon chat que de faire tout ça. Je pense pas qu'il ait été capable de faire tout ça.
OK, raconte-nous tout ça, c'est quoi?
Or, bref, les objets se promenaient beaucoup. J'ai jamais perdu autant de choses puis retrouvées ensuite que quand j'ai habité ce logement-là. C'était vraiment bizarre. Pas que je suis une personne à l'ordre, je suis pas particulièrement à l'ordre, mais généralement, tu sais, je pars pas mon set de clés, je pars pas mon portefeuille. Généralement, ça se passe bien. Puis en plus, c'était tout petit, il y avait presque pas de place où perdre des choses, là, on s'entend. Un petit 2,5, pas de rangement. Bon. Puis, il y a deux fois en particulier que je me rappelle parce que c'était mon trousseau de clés. Et puis, c'était super important d'avoir mes clés parce que quand on sortait de ce logement-là, la porte barrait. Donc, si tu ne voulais pas t'embarrer dehors, il fallait que tu aies tes clés tout le temps. Tu sais, même pour aller chercher le courrier, il fallait avoir les clés. Donc, c'est ça, je laissais tout le temps mon trousseau de clés au même endroit, sur le coin du comptoir, sur le bord de la porte. Je ramassais mon trousseau de clés, je sortais. Or, un matin, j'étais en congé, c'était pas trop grave, mais quand même, je veux aller faire une petite promenade dans le quartier, faire mes commissions. Je viens pour sortir, le trousseau de clés n'est pas là. Je fais, bon, tu sais, j'ai dû être distraite, là. Peut-être je l'ai laissé dans mes poches, peut-être je l'ai mis au lavage. Là, je commence à chercher, tu sais. Tu cherches dans ton linge la veille, tu cherches dans le panier à linge, tu cherches, il est-tu tombé à quelque part? Je cherche, jamais trouvé le trousseau de clés. Là, j'étais, tu viens comme obsédé parce que tu cherches sans arrêt, tu dis ça se peut pas, ben voyons donc.
Faut que ça soit à quelque part.
Ben là, ça a pas de bon sens. Puis là, je cherchais, là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, coudon. Ben, tiens, je vais prendre ma douche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis, j'arrive dans la douche, et puis, là, qu'est-ce que je vois? Il y avait mon trousseau de clés qui était en équilibre. Il y avait deux clés là-dessus, c'est pas compliqué. Il y avait une clé qui était, tu sais, sur le petit X dans le milieu, là, dans le milieu du drain, là.
OK, c'est vrai, c'est le drain.
Ouais. Il y avait une clé d'un bord du petit X et l'autre clé de l'autre bord du petit X qui était en équilibre au-dessus du drain. Puis, en tout cas, j'ai jamais compris comment le trousseau de clé a abouti là. C'était vraiment bizarre. En tout cas, j'ai ramassé mon trousseau de clé, j'étais bien contente, mais j'avais quand même perdu l'avant-midi à virer l'appart à l'envers pour trouver des clés. La deuxième fois, là, c'était un peu plus stressant parce que je m'en allais travailler, c'était le matin. Et puis, encore le trousseau de clés. je cherchais les clés. Je trouvais pas les clés. La même histoire, sauf que là, j'étais vraiment pressée. Puis là, je me suis dit, hey, là, j'ai pas le choix. Je vais mettre un tape sur la penne de la porte, puis ça va être débarré pour la journée. Qu'est-ce que tu veux faire, là? J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Là, tout d'un coup, je lève la tête. En tout cas, après avoir fait ben des sparages puis reviré à peu près tout ce qu'il y avait de possible à revirer de bord dans l'appart, je vois un petit bout de clé qui dépasse. Les clés étaient sur le dessus des armoires. Fait que, ben c'est ça, tu sais. Moi, je suis pas du genre vraiment à monter... à grimper sur une chaise puis laisser par inadvertance mes clés sur le dessus des armoires sans m'en apercevoir, là, quand même. Donc, j'ai trouvé ça assez spécial cette fois-là aussi. Et puis, c'est ça, tu sais, on n'a jamais réussi à savoir qu'est-ce qui se passait exactement dans cet appart-là, tu sais, justement, c'est-tu des lutins, des fantômes, un set de clés possédé. On n'a jamais su, mais toujours est-il que ensuite j'ai déménagé, puis plus jamais mon set de clés s'est promené autant. D'ailleurs, comme le reste des objets, tu sais, il y a plein d'autres objets qui se promenaient, mais c'est ça, le set de clés m'a marqué, disons.
Cool. Ben, c'est une belle histoire, ça. Marlène, merci beaucoup pour le témoignage, c'est vraiment cool.
Ben, ça fait plaisir, David.
Ça marche. Ben, puis merci. Continue d'écouter Fréquence d'Outre-Tombe à CKRL.
Yes.
OK, salut. Bye. À bientôt. Bye. On remercie donc Marlène pour son histoire de lutin, fantôme, voleur de clés.
Et maintenant, on va enchaîner avec une histoire qu'un auditeur nous a fait parvenir via Messenger sur la page de Fréquence d'Outre-Tombe. L'histoire est d'Alexandre Gagnon-Guérin de Charlebourg. Et l'histoire ne portera pas de titre, mais ça va comme suit. Lucie aiguise ses canines sur la meule de son père. Elle a lu toutes les sagas vampiresques qu'elle pouvait dénicher et maintenant elle veut goûter au sang frais qui coule dans les veines de ses compères, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants. Lucie n'a rien à faire des diamants. Ce qui la fait planer, c'est sucer du sang bien frais et chaud à souhait. Quelques minutes passées, elles sont bien acérées. Tout le monde sait que les vampires n'existent pas, mais Lucie a toujours eu le don pour faire de ses rêves une réalité. Elle décide de sortir, elle veut faire une première victime, quelque chose de facile. Elle marche quelques pas et aperçoit un vieil homme avec une canne, il rampe presque. Il pleut ce soir-là, et chaque goutte qui tombe sur Lucie lui donne de plus en plus soif. Elle veut s'en régaler jusqu'au dernier souffle que sa victime poussera. L'homme se dirige dans une ruelle sombre, où aucun lampadaire ne pourrait afficher au grand air le crime étrange que Lucie aura peut-être le plaisir d'exécuter. Elle court, plutôt elle jogue, jusqu'à sa victime et lui arrache sa canne. « Mais que me voulez-vous? Je ne suis qu'un pauvre vieillard sans défense. »« Justement, » répondit-elle et l'assomma avec la canne. Elle perdit conscience. Il perdit conscience, excusez. Une fois par terre, tel un prédateur, cherchant le maillon faible du peloton, elle lui sauta au cou comme un serpent aurait mordu sa proie. Et elle commence à se délecter. C'est la première fois que Lucie commet un tel geste. Elle jubile. Le goût de clou rouillé lui plaît. Elle aime l'âcreté que ce nectar projette. Tel un bon vin, le sang humain a des subtilités dans son goût. Dommage qu'elle n'ait amené sa carte inspire. Elle venait de trouver sa pastille préférée, claire, généreux et surtout abondant. Probablement que cet homme prenait une médication pour éclaircir le sang, car oui, il coule à flot. L'homme meurt, il ne respire plus. Déjà inconscient, il ne put appeler à l'aide. Lucie quitte les lieux, laissant le quinquagénaire dans la petite mare sanglante qu'elle n'avait plus soif d'ingérer. Elle retourne chez elle. Un couple passe sur le trottoir, apercevant Lucie quitter la ruelle à un rythme normal. Une cadence qui rappelle une promenade du soir et c'est tout. Ils n'ont rien vu. Lucie avait le style gothique et il n'était pas rare de rencontrer des gens revêtus de longues toges noires et de maquillage blanc dans les rues de Limoilou, surtout lorsque le soleil s'est couché et que les oiseaux de nuit commencent à prendre leur envol. Elle rentre chez elle, sourit à ses parents, qui ne s'étonne même pas de sa nouvelle dentition, tellement ils ont tout vu avec elle. « Tu es à temps pour le souper, ma chérie, » dit sa mère. Ils avaient effectivement attendu la pénombre pour servir le repas en ce jour pluvieux. Il était environ 9h moins quart. « Qu'est-ce qu'on mange ?» demanda Lucie. « Du boudin, comme tu aimes. »« Ça tombe bien, j'ai encore un petit creux. » Et elle se mit à rire comme une démone sans aucun remords. Rien ne se sut jamais et cela devint pour Lucie son petit secret bien gardé. Fin de l'histoire.
Hey, merci Pat pour l'histoire. Ben, merci à Alexandre en fait pour l'histoire à glacer le sang.
Oui, une histoire à glacer le sang. Écoute Alexandre, merci beaucoup pour l'histoire et j'espère que je l'ai bien lu. J'espère que c'était à la hauteur de tes sanglantes attentes.
Good. Je me demande vraiment s'ils goûtent bon les petits vieux à Limoilou.
Ah, écoute.
À vérifier.
À vérifier. Il y a peut-être une pastille là pour.
La pastille de goût, c'est vraiment drôle ça.
Yeah.
C'est parfait, c'est parfait. Super, super. Cool. Moi aussi, j'ai une histoire. C'est Maïté qui nous a écrit cette histoire qui s'intitule Le caveau. En 2016. J'ai aménagé dans la maison dans laquelle je vis actuellement, qui m'a d'ailleurs plu au premier instant. Le jour du tour guidé par l'agent immobilier, j'ai ressenti que cet endroit avait un je ne sais quoi de vraiment particulier. Vers la fin de la balade des lieux, on nous montra la pièce de résistance, la cerise sur le sundae. En ouvrant la porte de ce qui s'apparentait à un simple garde-robe, nous nous retrouvions directement 6 pieds sous terre, à l'extérieur des fondations de la maison, dans un sombre et long tunnel ressemblant à un petit bunker. Le fond du tunnel, du peu que je ne pouvais voir, semblait complètement scellé par une espèce de mur en briques rougeâtre. Il y faisait bien froid, accentuation du plafond encore glacial de l'hiver. Je me souviens qu'au même moment où mon corps fut parcouru de frissons supplémentaires, s'est grillé d'un bref coup notre ampoule plafonnière et seule source de lumière. L'agent immobilier était lui-même étonné de cet endroit inusité comme il n'en avait jamais vu de sa carrière d'expérimenté. Il nous raconta brièvement l'histoire de ce tunnel. Quelques dizaines d'années auparavant, l'habitation était reliée avec celle d'un voisin. Apparemment qu'on y traversait jour et nuit à toute saison pour transporter de la nourriture destinée à une personne très malade vivant de l'autre côté, et ce, jusqu'à son décès. Cet espace insolite et underground laissait clairement planer le mystère, ce qui piqua davantage ma curiosité. Dans l'ensemble, nous étions très charmés par la demeure. Une fois l'achat conclu, nous avons baptisé l'étrange pièce « Le Caveau » ou « Le Caveau à patates » pour les intimes. Avec du recul, ce titre pourrait coïncider involontairement la relation entre un lieu de sépulture souterrain et le triste antécédent de maladie dans ce secteur. Depuis l'aménagement officiel, j'ai été témoin de plusieurs épisodes énigmatiques que j'interprète plutôt comme des manifestations. La première s'est produite quand j'ai exploré en solo avec ma flashlight le caveau de fond en comble. À demi dissimulé sous la saleté d'un recoin, j'ai étonnamment trouvé, puis déterré, une vieille et vintage seringue à piston. Grirouillée et ternie par l'humidité pendant sans doute de nombreuses années indéterminées, j'étais stupéfaite. Jamais j'imaginais faire une trouvaille de ce genre. Ce fut le seul item du passé laissé à l'abandon, retracé dans la maison. Depuis, j'ai cependant eu l'occasion d'entendre des craquements venant du sous-sol, et parfois, on croirait discerner quelqu'un avoir une très forte toux, alors que ma fille est au lit, endormie, par exemple. Sa chambre est située non loin de là, et m'a fait part, elle aussi, avoir entendu des bruits inquiétants à certains moments. La plus récente et dernière apparition, qui est d'ailleurs la plus concrète de cette saga, s'est produite en 2019. Cette année-là, nous avons adopté un minet, Lestat, le plus mignon des chats vampires. Étant expressif, ce n'était pas étonnant de l'entendre miauler pour le plaisir ou gratter aux portes pour simplement attirer notre attention. Très joueur, il adore se cacher et devient complètement fou à chasser les moindres ombres qu'il voit passer. Ça nous est arrivé d'être réveillé par ses sauts obsessifs sans raison sur les murs et armoires, pareil comme il agit lorsqu'il chasse ses proies en pleine clarté. Une nuit où il était particulièrement bruyant et insistant, je suis descendu à l'étage inférieur pour voir ce qui s'y tramait. Lestat se tenait tout juste au bout de l'escalier, son regard posé droit en direction du caveau. Faisant mon devoir de vérifier que tout se passe bien dans la maison, j'ai voulu aussi en valider la sécurité. Un câlin félin et une grande inspiration plus tard, j'ai ouvert cette fameuse porte à température contraire de l'enfer. En tirant la corde de la lumière, j'ai vu une ombre de forme clairement corporelle se dessiner sur la brique. Omnibulé et sans la quitter du regard, je l'ai observé glisser très doucement de longues secondes contre le muret jusqu'à traverser l'entièreté du tunnel pour enfin y disparaître, se fondant dans la noirceur absolue. Le sang de mes veines en putréfaction, le cœur battait à l'extrême rythme de la stupéfaction. Même si aucune preuve n'a pu être tangibilisée, les liens entre les étranges péripéties et cette ombre marquante en déplacement sont entrés en connexion dans ma cervelle, instantanément. Bien que ça me titille, l'identité de l'individu concerné restera probablement à jamais enterrée, volatilisée aux côtés de ses humains préférés. Car j'ai réalisé, peu après, que les voisins venaient fraîchement de déménager, faisant ainsi le deuil de leur maison familiale. Je suis en paix à symboliser avec cette apparition par la transition d'un ange en voyage au centre du noyau terrestre, d'une âme en excursion vers une autre dimension. Depuis un an maintenant, les sons douteux me manquent un peu. Quant à Lestat, je surprends de temps en temps, en position assise et quasi hypnotisée devant la porte du caveau, comme s'il attendait impatiemment d'exterminer un revenant pour n'en refaire qu'une finale létale bouchée.
Ouais. Quand j'entends des histoires comme ça, je me dis que c'est probablement une histoire vraie, ça. Qu'est-ce que t'en penses, David?
Ouais, ben je pense qu'effectivement, c'est une histoire vraie que Maïté vient de nous écrire. Maïté, qu'on remercie beaucoup. On a donc déjà deux histoires.
Très belle histoire.
Deux très belles histoires.
Oui.
Donc, puis on va vous faire choisir, auditeurs. Il nous en reste une troisième à vous présenter, donc notre top 3 du mois de novembre.
Oui.
Une de celles-ci va se mériter un des fameux crânes, gracieuseté de...
La plus percutante, selon vous, auditeurs et auditrices de Fréquence d'Outre-Tombe.
On y va donc avec notre dernière qui nous vient de Maxime. Maxime qui habite ici au centre-ville de Québec et qui nous a écrit une histoire que j'ai intitulée « Le Airbnb ».
Je n'ai pas voyagé énormément dans ma vie, mais j'ai toujours été fasciné par la Louisiane. Quand j'ai eu terminé le cégep, j'ai décidé de faire un petit voyage d'une semaine à Nouvelle-Orléans. Mes amis n'étaient pas dans le même mood à l'époque, donc je me suis résigné à y aller tout seul. Comme j'avais les moyens d'un étudiant, j'ai opté pour Airbnb. Je préférais ça à une autre auberge de jeunesse. J'ai donc loué une chambre dans une maison qui me semblait confortable en banlieue de la ville. Les reviews étaient bonnes, les propriétaires semblaient être un couple un peu âgé qui louait une ou des chambres dans leur maison. J'imagine que ça leur donnait un peu d'argent et un peu de social. Je me suis donc rendu à la résidence en question, dans un bon quartier résidentiel d'Avondale, juste de l'autre côté du pont. C'était parfait, et ça ne me coûterait que quelques dollars de taxi ou d'Uber pour me rendre en ville, et la chambre était à un prix incomparable. C'est effectivement un couple d'un certain âge qui m'a accueilli, pas très vieux, jeune soixantaine je dirais. Ils étaient sympathiques, m'ont parlé un peu du coin du fait qu'ils avaient élevé 4 enfants dans cette maison et qu'ils étaient tous en dehors de la ville maintenant. Ils disaient que recevoir des visiteurs leur faisait plaisir. Mon anglais, plutôt limité, alors la conversation n'a pas levé tant que ça, mais ils étaient bien smart. Ils m'ont montré la chambre, une pièce modeste, mais confortable, située à une extrémité de la maison. Je me suis installé, puis je suis allé passer la soirée dans le quartier français, Jackson Square, la cathédrale Saint-Louis, etc. Je suis rentré autour de minuit. J'ai gagné ma chambre et je suis allé me coucher. D'un sommeil léger, probablement dû au fait que j'étais excité par ce voyage et la nouveauté, autour de 2 heures du matin, je me suis réveillé. J'entendais un bruit dans le couloir, des bruits de pas qui semblaient s'approcher de ma chambre. Toujours couché, la tête sur l'oreiller, je regardais vers la porte. Il faisait évidemment très noir. Puis j'ai entendu la poignée et la porte s'ouvrir tout doucement et j'ai pu deviner que l'homme, le propriétaire, était en train de pénétrer dans la chambre tout doucement sur la pointe des pieds. Il s'approchait du lit. Je restais immobile, dans le noir, et je le regardais s'approcher. Je ne pouvais voir que sa silhouette. J'étais comme figé, mais en même temps, je n'avais vraiment pas peur à ce point-là, puisque le couple m'avait pourtant paru inoffensif. Puis derrière lui, j'ai remarqué une petite lumière rouge ainsi qu'une lueur bleutée. J'ai ensuite pu déceler que sa femme le suivait et qu'elle tenait à la main une caméra vidéo. Elle était en train de filmer. C'est là que la panique m'a pris. Je me suis raidi et j'ai tourné le regard vers l'homme. Il était tout près, maintenant, et je pouvais le distinguer. Il portait un masque, une tête de porc. Puis il a levé la main. Il tenait une énorme clé à molette avec laquelle il s'apprêtait à me frapper. Heureusement, j'ai eu le réflexe de retenir son bras qui descendait vers moi. Et je l'ai repoussé du mieux que j'ai pu. Il était plus lourd et plus fort que je ne l'avais imaginé. Puis, sans réfléchir, j'ai simplement agrippé mon sac à dos qui contenait mon portefeuille, mon passeport et mon téléphone cellulaire. Et je suis sorti de la maison en 4e vitesse. Ma valise est restée là, elle. Dans le milieu de la nuit, comme ça, j'ai pu appeler la police, mais ils ne m'ont pas pris au sérieux. Un jeune étudiant francophone qui accuse un couple âgé de l'avoir attaqué, difficile à croire. Ils m'ont dit qu'ils étaient allés vérifier, sans rien trouver d'anormal. J'en doute toujours. Je me considère vraiment chanceux de ne pas avoir été endormi quand le couple est rentré dans ma chambre. Ils avaient évidemment misé là-dessus. Je ne sais pas trop exactement ce qu'ils auraient fait. et s'ils l'avaient fait auparavant, mais je ne veux vraiment pas le savoir. Ce que je sais, c'est que leur annonce sur Airbnb est maintenant introuvable.
Bon, ben, sais-tu quoi, moi, la prochaine fois que je vais aller en voyage, Pat, je pense que Holiday Inn, ça va faire l'affaire, là.
Hey, bonne histoire, puis merci à tout le monde qui nous a envoyé des histoires. C'est très apprécié. On espère que vous êtes satisfaites de nos lectures. Et on vous encourage à nous envoyer d'autres histoires pour le mois de décembre, parce qu'on va continuer le concours jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on encourage nos auditeurs et auditrices à aller voter pour votre histoire favorite. Et les gagnants-gagnantes vont se mériter des belles têtes de mort.
Cool. Donc, on vous met un petit post Facebook là, dans les prochaines heures. Puis, on vous donne, disons, la semaine. Allez voter pour votre histoire préférée. Le vampire de Limoilou, le caveau et le Airbnb. Donc, c'était Fréquence d'Outre-Tombe. On se reparle la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Bonne semaine.
Bonne soirée.